Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le 12. On commence ça net frais de sec. Le 12.
Ça part ici.
Bon mardi midi à tous et à toutes. Bienvenue au 12 en ce mardi 23 septembre. Mardi un peu pluvieux, mais que voulez-vous? C'est parfait pour se réfugier à l'intérieur, que ce soit au E1 ou un peu partout sur les campus. On sera avec vous jusqu'à 13h aujourd'hui pour une émission culturelle. Donc aujourd'hui, on aura la chance de parler au trio Marcia qui ont sorti leur nouvel album. En fait, ils vont sortir leur nouvel album ce vendredi. Donc on leur parle un peu plus tard. Ce sera vers 12h45. Sinon, on va recevoir la professeure Kiev Renaud pour parler d'ateliers d'écriture qui vont se dérouler au Café 440 là, tout au long de l'automne. Et on parle également à Ambo Flibit, donc l'artiste qui propose son nouvel EP « J'écoute avec mes yeux ». Donc, un programme bien chargé aujourd'hui sur l'heure du midi. Et je commence en fait avec un petit tour d'horizon là, des quelques événements qui vont se dérouler d'ici la fin de la semaine et pendant le week-end dans les principales salles culturelles de Sherbrooke ici. Bien, je vais commencer tout de suite avec la salle Maurice O'Brady, donc la programmation du Centre culturel. Demain, on est une radio, donc on aime ça. Il y a une présentation d'un podcast live devant public. C'est le podcast des personnages de Jay La Liberté qui sera de passage ici à Sherbrooke. Donc, si vous ne connaissez pas le concept de ce podcast-là, en fait, c'est Jay La Liberté et un ou plusieurs, là, dans ce cas-ci, je crois, invités. Souvent des humoristes du milieu qui vont personnifier le temps d'un podcast un personnage quelconque de leur crew, un personnage qu'ils vont avoir fabriqué eux-mêmes et puis format entrevue classique, mais évidemment, ça vire à l'absurde parce que c'est des personnages qui n'existent pas ou en tout cas... Tout relève en fait de l'invité qui est déterminé par Jay La Liberté. Donc c'est toujours très intéressant. Si vous n'avez pas vu les quelques épisodes qui sont sur YouTube, ben, je vous suggère fortement d'aller les voir. C'est à la salle principale en fait. Il y a comme une programmation de podcast assez intéressante au Centre culturel, puis un setup particulier également. Là. Donc allez voir ça, c'est le premier de cette série de podcasts-là. Sinon, jeudi, il y a Apéro à la française et La Reverdie, qui est un événement présenté à la Galerie d'art Antoine Sirois, qui est adjacente en fait au Centre culturel. C'est un apéro à la française qui est un événement un peu thématique qui inclut un billet de spectacle, donc à la Rêverie, qui est un duo de danse français ami-ami, et deux verres de vin et quatre bouchées gastronomiques. Donc voilà. Sinon, il y a également un spectacle en fait de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, donc qui va proposer cette fois des variations romantiques. Donc c'est ce samedi à 19h30 au Centre culturel. Et puis, en parallèle, dans la petite salle, il y aura Liliane Blanc-Coubinette en rodage. Donc, voilà. Et le dimanche, il y a les Journées de la culture. En fait, là, c'est des événements gratuits qui se passent un peu partout, je crois, à Sherbrooke. Mais là, c'est ça, au Centre culturel spécifiquement. Ce sera des ateliers de cirque au balcon du Mont Offord, des ateliers d'art visuel au balcon Mont-Bellevue, une visite guidée de la galerie d'art Antoine Sirois et un spectacle... Je crois que c'est de danse pour les 6 ans et plus, donc un spectacle pour enfants à 11h qui est gratuit encore une fois. Donc voilà pour le Centre culturel ce week-end. À la petite boîte noire, ben, il y aura le lancement du troisième roman d'Alain de la Fontaine, À la limite du soleil, et Stomping Tree et Galaxy samedi, donc qui est complet malheureusement. Si vous avez oublié, tant mieux, mais sinon, c'est pas grave. Et sinon, à la boîte de jour, là, on propose des spectacles de jour à la petite salle du Centre culturel, à la petite boîte noire. Donc, c'est Kira Baladera Tour. Donc, voilà. Et au Granada, un peu plus tranquille. Bon, il y a un hommage à Stevie Ray Vaughan, mais samedi, il y a Alexandre Champagne qui est en spectacle. C'est son premier one-man show, je crois. Là. Donc, voilà. C'est beaucoup de culture en ce week-end, dernier week-end de septembre. Il y a la Maison du cinéma également qui propose Orange Mécanique dès 22h. Donc, plein d'événements ce week-end à Sherbrooke. On s'en va en musique et puis au retour du bloc publicitaire, on va s'entretenir avec notre premier invité, Ambo Flibit, ou en fait Raphaël Léveillé, donc, qui sous son nom d'artiste, Ambo Flibit.
Le 12. Culture, recherche, conférence, événement. Le 12.
Ça part ici.
Vous êtes de retour au 12. Et puis maintenant, ben, c'est le temps de s'entretenir, avec Raphaël Léveillé ou son nom d'artiste Ambo Flébit pour parler de son nouvel EP, J'écoute avec mes yeux. Salut Raphaël, ça va bien?
Allô, allô, ça va bien, merci. Et vous?
Oui, ça va super bien, merci. Écoute, parle-nous de ce projet-là, qui est un diptyque, en fait, là, ce premier EP, J'écoute avec mes yeux, va être suivi éventuellement d'un autre qui s'intitulerait Je parle avec mes mains. C'est un projet là, qui est vraiment très ancré dans ton passé, dans ton vécu, en fait. Là.
Oui, exact. En fait, j'avais le goût d'aller piger dans mon héritage de personne, de ce qu'on appelle... un coda. Il n'y a pas de terme francophone pour ça, mais dans le fond, coda, c'est les abréviations de... les abréviations de Children of Deaf Adults, c'est que enfants de personnes sourdes.
Ouais.
J'ai grandi, moi, mes deux parents sont sourds signeurs, donc ils parlent la langue des signes québécoise.
Mm-hmm.
Fait que j'ai grandi entouré de la langue des signes, tu sais, c'est comme, dans le fond, c'est ma deuxième langue maternelle, c'est la langue des signes québécoise. J'écoute avec mes yeux, c'est comme une manière de souligner le fait de porter une attention particulière au regard puis à la compréhension du langage aussi par les yeux. En tant que personne entendante, souvent on associe la compréhension puis l'intellectualisation des choses par l'ouïe, par les mots oraux.
Mm-hmm.
Tout ça, j'avais envie de dévier cette type d'attention-là à l'information plus visuelle.
Oui. Ben, je connaissais, il y a eu quelques films, notamment sur les codas. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps aussi, là, de 3-4 ans, je crois. Mais est-ce que, on dirait que c'est particulier que tu sois devenu musicien, justement, qui est comme l'extrême opposé de tout ça. Est-ce que c'est arrivé de façon consciente de t'être tourné vers la musique? Et, comment est-ce que ça t'influence, toi, en tant que musicien, ce passé-là, justement?
Oui, ben c'est sûr que ça crée quelque chose d'assez complexe, là, puis c'est comme si c'est singulier. Après ça, il y a comme ça vient avec une part de deuil, tu sais. Il y a comme une partie de moi que je peux pas partager avec mes parents.
Mm-hmm.
Après ça, c'est un choix que j'ai fait, là, de faire la musique. Mais entre autres, comment c'est arrivé, c'était surtout moi, c'est mes sœurs, j'ai deux grandes sœurs qui était assez mélomane, puis qui se tenait, une de mes sœurs se tenait beaucoup avec des musiciens, puis du monde qui trippait sur le punk, là, puis la musique indie montréalaise. Fait que j'ai comme été initié assez vite à cet héritage-là, à cette scène-là. Puis il y avait mon grand-père aussi qui jouait de la guitare, puis qui chantait, puis c'est comme surtout par lui que j'ai été encouragé à poursuivre cet intérêt-là quand j'étais très jeune. Tu sais, j'avais 12 ans, puis je m'intéressais à la guitare. Fait que là, très vite, il m'a inscrit à des cours, puis il m'encourageait beaucoup dans cette voie-là. Puis, tu sais, mes parents n'ont jamais non plus résisté à ça, là. C'est plus quelque chose qui n'est pas leur domaine.
Mm-hmm.
Puis je pense que je pense que dans ma pratique, j'aime ça. C'est la raison pourquoi qui m'a amené à parler de tout ça avec cet EP-là, puis le prochain qui s'en vient, c'est aussi de créer du contenu qui reflète cette réalité-là, puis ce paradoxe-là un peu dans ma vie. Puis je pense que j'aime ça dans mes shows, créer des environnements qui sont plaisants. Je dirais pas que mes shows sont accessibles aux personnes sourdes, au sens où ils sont pas traduits, je vais pas mettre des sous-titres en spectacle, là, pas à ce statut. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, là, éventuellement, mais ça prend des moyens pour engager des interprètes, c'est beaucoup de travail.
Ouais.
Mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire, d'intégrer la langue des signes dans mes shows. Mais déjà, j'essaie quand même d'intégrer de la mise en scène qui est le fun, tu sais, puis qui est le fun pour mes parents à venir voir en dehors du côté musical, tu sais, puis après ça, ben, la, je veux pas, dans un show, quand c'est fort, ils ont quand même accès à une certaine partie de la musique. Là.
Mm-hmm. C'est ton premier... en fait, tu avais sorti un EP en 2022, mais sinon, ton album complet, ton dernier album complet date de 2020. Dirais-tu que, justement, pour essayer de... outre les thématiques peut-être un peu plus personnelles, dirais-tu que tu as essayé quelque chose de différent au niveau des sonorités dans ces deux... dans ce EP-là, puis dans celui qui s'en vient?
Je pense que oui. Tu sais, déjà, pour la piste oiseau, là, on est allé dans une esthétique un peu plus dub slash drum and bass.
Mm-hmm.
Mettons, c'est comme des sonorités que moi, j'avais jamais vraiment expérimenté. Là. Il y avait de quoi d'un petit peu plus électro. Après ça, je pense que j'aime ça pas trop me limiter ou me casser la tête à me dire comment on va essayer d'aller dans cette esthétique-là. Je pense que j'essaie de suivre un peu ce qui se présente instinctivement, ce qui vient un peu sur le fait. Là. Tu sais, comme là, mettons dans Oiseau, justement, on a intégré des sons de un peu cartoonesque.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que ça, c'était comme un envie qui vient depuis le jour 1 que j'ai composé ce riff-là. On dirait que c'est comme quelque chose que j'entendais, puis en écrivant la chanson, c'est comme devenu... C'est comme si l'idée à la base était une idée intuitive, mais ça finit par prendre du sens pour moi quand le texte y vient, puis quand comme tout ça devient un tout qui fait du sens, mais qui à la base vient pas de moi qui a essayé d'intégrer qui a intellectualisé quelque chose, là, c'est vraiment le sens se définit au cours de la création de tout ça. Dans les sons, dans la sonorité, je pense que pour moi, Piscinavague, c'en est une qui déjoue un peu, des patterns que j'avais. Là. Je pense que c'est quand même une chanson qui est assez calme, qui a long développement, tu sais, puis une affaire que j'avais vraiment le goût d'essayer, c'était d'écrire un canon. Là. J'avais jamais fait ça.
Ouais.
Puis, c'est quand j'étais en voyage en France avec des amis. Une des activités qu'on faisait quand on se déplaçait ou quand on s'installait quelque part, c'est souvent de chanter un canon. On avait comme un canon de Moondog là, qu'on reprenait tout le temps. Puis on dirait que ça m'a comme... C'est la chanson, je l'ai écrite lors de ce voyage-là parce que j'étais comme, attends, j'ai vraiment envie d'explorer cette... pour ce procédé-là. Après ça, dans Piscinavague, c'est pas un vrai canon au sens où c'est pas le deuxième texte est pas le même que le premier, mais la mélodie reste similaire en réponse à la première. Là.
Nos auditeurs et auditrices vont pouvoir l'entendre tout de suite après l'entrevue, justement, Piscinavague. Je veux parler un peu de la réalisation de l'album, parce que c'est Navet Confit qui t'as travaillé avec lui. Justement, est-ce que c'était la première fois que tu travaillais avec lui?
Non, c'est pas la première fois. Sur le dernier EP qu'on a fait avec Amboflubit, c'est lui qui avait fait la réalisation aussi sur les autres liaisons.
Ouais.
Qu'est-ce
que son travail, justement, ou votre collaboration a amené peut-être à cet album-là?
C'est une très bonne question. J'ai envie de dire que c'est vraiment un sentiment de complicité puis de cohérence artistique. Là. C'est comme... je sens vraiment qu'on est... Que Navet, il y a plus d'expérience que moi. Ça fait plus longtemps qu'il est sur la scène. Là. J'ai vraiment l'impression qu'Amboflubit, c'est comme le petit cousin de Navet Confit. Pour moi, c'est... On a comme une manière de penser puis de vouloir, tu sais, on aime beaucoup travailler, je pense, dans les dissonances puis dans les exagérations, là, si on peut simplifier ça à quelques procédés, là, tu sais, une des affaires qui revient souvent quand on est en studio ensemble, c'est que quand on a une idée puis qu'on l'essaye puis que ça nous fait vraiment rire, même si le but c'était pas de faire une joke, c'est comme si on est comme, OK, ça, c'est bon signe. On est sur la bonne voie. Puis après ça, la petite voix qui dit comme, ah, c'est une bonne idée, ça, c'est-tu du sabotage? Cette voix-là, elle disparaît parce qu'on sait qu'entre nous, on se comprend puis on sait que ça va faire effet. Ça,
ouais.
Ça, c'est le fun. S'il y a du plaisir dans le fait de créer, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et qu'on continue même.
Je vais laisser du temps pour qu'on puisse écouter la chanson, là, quand même, qui est un peu plus longue, comme tu le mentionnais. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que Je parle avec mes mains a été enregistré en même temps que J'écoute avec mes yeux, ou on va y retrouver clairement une certaine forme d'uniformité, là, mais est-ce que tout a été fait en même temps, mais que tu les as divisés, ou si vraiment tu les vois comme deux projets indépendants?
Je les vois comme deux projets indépendants, mais qui vont être reliés. Mm-hmm. Mon but en faisant, en fait, pour être tout à fait honnête avec toi et tous les auditeurs, c'est non, Je parle avec lui, il n'est pas enregistré encore.
Okay.
Il existe comme concept, ouais. Comme idée. Là, puis les chansons existent, les chansons sont créées, mais j'ai envie de le créer en continuité, mais aussi j'ai pas, tu sais, pour moi, au même titre que, tu sais, les fausses liaisons puis les autres liaisons, ça ont pas été créés ensemble, mais quand j'étais dans la création de les autres liaisons, je le pensais vraiment comme une réponse à l'autre, tu sais.
Mm-hmm.
C'est comme un procédé que j'aime vraiment faire. Éventuellement, je pense que si je refais une autre boutique, j'aimerais ça essayer de le faire en continuité, mais c'est quelque chose que j'aime explorer, là, l'idée de créer en réponse à quelque chose d'autre. Puis...
Mm-hmm. Est-ce que tu as des... en terminant, est-ce que tu as des dates de spectacle à venir, ou est-ce que tu te concentres justement sur le lancement de l'album et tout ça?
Oui, ben pour le moment, il y a le lancement de l'album justement le 13 novembre à l'ESCO à Montréal,
mm-hmm.
dans le cadre de Coup de cœur francophone. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates d'annoncer pour En Bouffe les Bites. On essaie de... idéalement, on aimerait ça faire les festivals l'été, se promener, quoi.
Ouais. Ça va être plus au printemps et l'été prochain pour les spectacles. Ben, on va inviter évidemment nos auditeurs et auditrices à aller l'écouter. Donc, ton nouvel EP, pardon, c'est bon. Il y avait un petit bug sur l'ordinateur ici. J'écoute avec mes yeux, donc qui est disponible partout. On s'en va écouter Piscine à vagues, qui se trouve sur cet album-là. Raphaël Léveillé, alias En Bouffe les Bites, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
Avec plaisir, merci à vous, bonne écoute.
Ça va bien. Aujourd'hui, rien à dire. Jusqu'ici.
Recherche,
conférence,
événement.
Le 12. Ça part ici.
Midi 32, vous êtes toujours à l'écoute du 12. Et puis maintenant, on va rejoindre le professeur Kiev Renaud, professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines, donc arts, langues et littérature, pour nous parler en fait d'ateliers d'écriture qui auront lieu cet automne et cet hiver également au Café 440. Bonjour professeur Renaud, vous allez bien?
Oui, bonjour. Merci. Merci de votre accueil.
Merci donc de venir nous parler de ces ateliers d'écriture-là qui auront lieu au Café 440. Là, le premier est prévu pour le 24 septembre, donc demain. Vous avez un invité de marque également, mais avant qu'on parle de cet événement-là, je serais peut-être curieux de vous entendre sur la genèse des ateliers d'écriture. Est-ce que c'est la première fois que vous les mettez sur pied?
Oui, en fait, c'est pas la première fois que j'organise des ateliers d'écriture. Il y a beaucoup de demandes, notamment sur le campus. On a fait des ateliers d'écriture en collaboration avec le Climatoscope sur des questions environnementales, dans le cadre de la semaine arc-en-ciel également. Donc, je reçois beaucoup de sollicitations autour d'ateliers d'écriture. Il y a de l'engouement autant dans la population que pour les étudiants sur le campus, autant les étudiants de littérature que plus largement la communauté étudiante. Et là, c'est comme ça que le projet a germé. En fait, à force d'avoir des sollicitations, je me suis dit qu'on pouvait régulariser quelque chose, mettre en valeur les personnes étudiantes au doctorat, notamment en recherche-création. On va parler du détail de la programmation, mais il y a trois personnes au doc qui vont venir partager, faire des ateliers d'écriture autour de leurs questions de recherche. Ça leur fait pour elles une occasion de vulgarisation vraiment intéressante. Puis en même temps, il y a tellement de personnes qui gravitent autour de notre département, des chargés de cours, des professeurs. Donc, en fait, je me suis dit qu'on pouvait rapidement mettre quelque chose sur pied, avoir beaucoup d'invités intéressants, sans que ça soit très compliqué de les solliciter non plus. Et de fait, l'engouement a été rapide. J'ai eu beaucoup de réponses rapidement. Et j'ai voulu aussi, dans ce cadre-là, collaborer avec le Cégep de Sherbrooke, où moi, j'ai enseigné avant d'être engagée à l'université. Donc, c'était aussi l'occasion de retrouver mes anciennes collègues. Et puis là aussi, en fait, il y a un bassin, je pense qu'ils sont 45-50 profs, mais là-dessus, au Cégep de Sherbrooke, mais une vingtaine a une pratique d'écriture, donc au département de français. Donc, c'est aussi un beau bassin d'autrices, d'auteurs à solliciter. Et je trouvais aussi que les institutions d'enseignement, c'est quelque chose qu'on pouvait apporter à la vitalité du milieu littéraire régional, qui est déjà très grande. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les soirées littérature et autres niaiseries, notamment. Il y a des causeries chez Appalaches. Le Salon du livre est très actif. Puis là, j'essayais de voir comment, finalement, en tant qu'institution, on pouvait s'inscrire là-dedans, participer à la vitalité du milieu. Puis c'est l'idée des ateliers d'écriture, donc ouverts à la communauté, beaucoup pour la communauté étudiante, donc du cégep et de l'université. Mais plus largement, les gens vont pouvoir y assister selon leurs intérêts. L'idéal, ça serait de fidéliser un public qui revienne. Et puis, on a une ouverture comme ça sur plein de sujets, plein de pistes de création. Donc, je pense que c'est vraiment une belle année qui s'annonce. Puis déjà, on pense à la programmation de l'année 2. Là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est appelé à se pérenniser.
Donc, demain, vous recevrez l'auteur Patrick Nicole qui va parler en fait de la crédibilité d'un moment de fiction. À quoi ça va ressembler justement ces fameux ateliers d'écriture-là? Vraiment une conférence par un invité suivi d'ateliers pratiques? Comment ça se propose?
Oui. C'est ça, en fait, à chaque fois, on propose la même formule, mais c'est sûr que selon l'atelier, ça sera pas exactement la même chose, ça va se moduler, mais à peu près une vingt-trentaine de minutes où l'invité parle, donc témoigne de sa pratique, parle d'enjeux qu'il a rencontrés lui-même dans son écriture et propose donc une contrainte d'écriture autour de ça. Je pense notamment, cet hiver, on va recevoir Léa Murat-Inglès, qui a fait paraître son premier roman l'an dernier, qui est doctorante à l'université. Elle va travailler sur les archives, donc elle va apporter apporter des archives. Il va y avoir un travail autour de ça, donc très matériel. Donc, ça dépend de fois en fois. Mais donc, après, il va y avoir une période d'écriture, une trentaine de minutes. Et puis, ça va se terminer par un micro ouvert, donc animé par l'invité de la soirée. Donc, c'est pas mal toujours. Donc, cette formule-là, c'est en formule 5 à 7. Donc, une heure et demie, deux heures environ, séparés dans ces trois grands blocs.
Sinon, deux autres événements sont pour l'instant confirmés là, en novembre et en décembre. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ceux-ci.
Bien sûr. Donc, en novembre, c'est le 5 novembre. C'est toujours les mercredis soirs, donc en 5 à 7. C'est Chanel Baudry-Pearson qui fait son doctorat à mon département sous ma direction. Elle travaille sur le silence au cœur des dialogues et c'est ce dont elle va parler. Donc, comment faire parler des personnages qui parlent un peu sans se dire, mais qu'en même temps, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent derrière ça. Donc, ça va être l'occasion pour elle de parler de ses recherches. Et puis, en décembre, c'est notre nouvelle collègue en édition à Longueuil, Margot Mellet, donc qui descend pour donner un atelier de création autour de la création numérique. Donc, c'est un atelier « Apportez votre ordinateur ». Donc, ça, c'est le 3 décembre. Donc, un peu comme « Apportez votre vin », mais « Apportez votre ordinateur ». Et là, elle va faire un atelier d'initiation autour de l'écriture numérique qui est son sujet de recherche principal.
Ouais,
l'hiver, c'est confirmé aussi.
On reçoit
Marie-Claude Lapalme, qui est docteur en littérature de l'Université de Sherbrooke en janvier, professeur au Cégep de Sherbrooke. Ensuite, Léa Murenglaise, dont je vous parlais, en février. Vanessa Courville, même chose, enseignante au Cégep de Sherbrooke, qui a aussi un doctorat de l'UDS en mars. Et puis, Suzanne Champoux-Williams, qui est une doctorante ici, donc à l'UDS, qui va terminer la programmation en avril.
Aviez-vous une espèce de fil directeur pour cette programmation-là aussi, puisque c'est la première édition officielle, vous êtes plus allé avec justement les sujets des doctorants et doctorantes du programme de littérature?
Oui, ben l'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre qui permette d'explorer toutes sortes de choses. Donc, c'est sûr qu'on cherchait, on visait la diversité dans la programmation et j'ai vraiment demandé aux personnes, aux docs, de me soumettre des propositions qu'on va travailler. Donc, les trois doctorantes impliquées, Léa, Chanel et Suzanne font un petit groupe de travail. Elles testent les ateliers ensemble. Donc, on en fait aussi une occasion de formation. Mais donc, je pense que ça va rester dans cette formule-là, donc une ouverture sur beaucoup d'univers, une ouverture aussi sur des questions différentes, puis après, c'est un peu un buffet où les gens viennent quand ça les intéresse, ils peuvent venir systématiquement et puis s'initier à toutes sortes de sujets, donc c'est vraiment, je pense qu'il n'y aura jamais l'idée de faire traverser un grand thème, mais plutôt une ouverture sur plein de sujets, de questions et d'univers au fil des mois.
Vous le mentionnez, le milieu de la littérature ici à Sherbrooke est bien vivant et très effervescent, notamment au centre-ville. Bon, c'est le lieu également que vous avez choisi, le Café 440, qui est très accueillant. Là, il y a beaucoup d'événements culturels qui se déroulent, mais en regardant plus loin peut-être que ces ateliers-là, quels objectifs est-ce que vous souhaitez atteindre pour la suite de cette initiative-là? On pense déjà à l'an 2, mais quelles retombées espérez-vous pour la communauté littéraire puis même le grand public sherbrookois avec ça?
Oui, ben c'est sûr que d'abord il y avait un objectif très très près. Je voulais créer une occasion de rencontre pour les étudiants et étudiantes de l'université en littérature et du cégep. Donc ça, il y a quelque chose dans la régularité de cet événement-là qui se propose, qui prend cette forme. Donc que ça devienne un lieu de rencontre. Donc pour ces personnes-là, mais pas seulement, plus largement, aussi de faire une occasion. C'est un peu un événement qui a été pensé sur le mode de l'université populaire. Où on va donner des cours dans les cafés ouverts à tous. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans la démocratisation, dans la vulgarisation aussi de ce qui est fait, qui peut devenir finalement un cadre qui accueille beaucoup de choses, qui accueille beaucoup de perspectives, qui permet aux personnes de la région de découvrir des autrices, des auteurs, de voir un peu qu'est-ce qui se passe en littérature à l'université. Il y a quelque chose d'un peu, j'ai l'impression, parfois un peu mystérieux. Bon, vous aimez lire des livres, vous allez étudie en littérature à l'université, mais c'est plus complexe que ça. Puis surtout, étant donné le grand intérêt pour la création littéraire qu'on voit, on a créé un certificat en création littéraire l'an dernier, puis vraiment, ça répondait à un besoin, puis des gens qui viennent aussi de toutes sortes de milieux pour poursuivre cette formation-là. Donc, c'est vraiment une occasion de formation, un pont aussi de l'idée de sortir du campus pour toutes ces personnes spécialistes, puis de faire un lieu de rencontre, donc autant pour les étudiants et de créer une communauté à cette époque où on a bien besoin de ces lieux de rencontre et de sociabilité.
Et donc, il n'y a pas de réservation nécessaire, c'est vraiment premier arrivé, premier servi, c'est bien ça?
Oui. Exactement, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et puis c'est ça, il y a un nombre de places limité, mais ouais. arriver un peu plus tôt pour être certain d'avoir de la place.
Exactement, donc c'est dès demain, Patrick et Nicole, donc crédibilité, faire une scène, en fait crédibilité d'un moment de fiction, la thématique de ce premier atelier d'écriture. Professeur Renaud, je vous souhaite bon succès avec cette belle programmation-là à l'automne et à l'hiver et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous, bonne journée.
Vous êtes de retour au 12 et puis maintenant, je vais vous parler d'un nouvel album du trio Marcia qui va être disponible le 26 septembre prochain, donc ce vendredi. Pour en parler, on a le trio avec nous, donc Julie Morisseau, Adèle Levaillé et Michael Daoudi. Bonjour à vous trois, vous allez bien? d'abord, félicitations pour ce premier album qui est le fruit en fait de deux années de rencontres et d'exploration. Avant de peut-être parler de l'album, je serais curieux de vous entendre sur le début de la formation. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment avez-vous commencé à faire de la musique ensemble?
En fait, ça fait déjà deux ans qu'on joue ensemble. On s'est rencontrés autour d'une passion commune pour un répertoire brésilien, puis le jazz aussi, Télétro, on a fait une formation dans ce domaine-là.
Donc, c'était vraiment, c'est ça, une façon commune pour une musique spécifique qui nous a rassemblés. Au début, on jouait du répertoire qui nous passionnait, qui nous habitait. Puis, graduellement, on a commencé à développer notre propre répertoire, nos propres compositions. Et puis, maintenant, le projet s'est vraiment épanoui dans cette direction-là.
Vous mentionnez que cet album-là, ben, c'est un peu une capture sensorielle de ce que le trio représente. Vous mentionnez plusieurs influences, justement, dont les rythmes brésiliens. Qu'est-ce que vous avez essayé de proposer avec ce premier album-là? Là? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Là?
Ben, dans cet album-là, c'est, comme vous avez peut-être remarqué, c'est une formation un peu atypique. C'est la voix, la flûte et la guitare. Donc, c'est-à-dire qu'une des propositions qu'on fait dans le projet, c'est d'essayer de réfléchir à comment ces instruments mélodiques ou harmoniques peuvent remplir différents genres de rôles à l'intérieur de notre formation pour créer quelque chose de vraiment riche, de vraiment foisonnant, de toujours dans l'interaction, toujours dans la sensibilité, dans la connexion, dans le présent ensemble. On est vraiment tissé, serré dans notre musique, la manière qui est écrite, la manière qu'on la performe aussi. Donc, ça, c'est une des choses importantes qu'on propose à notre public, en plus de juste des compositions toujours vraiment sensibles, toujours harmonieuses, toujours dans la communication de l'émotion, dans les mélodies et tout.
J'ai cru comprendre que l'improvisation occupe quand même une place importante dans le processus créatif. Comment est-ce qu'on définit justement des espaces d'improvisation puis des espaces de création ou en tout cas de répétition pour que le tout fasse un ensemble cohérent, justement?
Ben, je pense que c'est beaucoup pratiqué ensemble. Comme j'avais dit, ce projet-là, ça fait c'est 2 ans de travail qui est derrière ça, mine de rien. Donc, c'est travailler le répertoire, travailler notre interaction ensemble.
Avant même, l'écoute, hein, aussi.
Hein? Oui, l'écoute ensemble, avant même de composer les tunes, c'était aussi de se connaître en tant que musicien. Et puis, mais sinon, c'est. Des fois, c'est. On dynamise des fois beaucoup la composition puis l'improvisation, mais en fait, je pense que la manière que le projet fonctionne, c'est aussi qu'on peut construire des espaces pour faire foisonner l'improvisation, la spontanéité. En fait, c'est une des sorties de l'information, je pense. Quelque chose qui nous échappe.
Vous avez enregistré cet album-là après une tournée en Europe. Habituellement, c'est un peu l'inverse, là. C'est plus on crée la musique et après on part en tournée. À quel point est-ce que... c'est sûr que ça a aidé à constituer justement cette chimie-là que vous avez à trois, mais à quel point peut-être ça a influencé le résultat final, l'enregistrement final de ces chansons-là, que d'avoir pu soit les tester un peu à l'avance ou aussi de les avoir fait évoluer dans le temps, là?
Je pense que c'est sûr d'avoir joué, d'avoir été en tournée, ça nous a permis de découvrir des publics qui ne connaissaient pas du tout. Parce que c'est sûr que la scène montréalaise, on l'a quand même assez explorée et on a quand même un public à Montréal. Puis d'aller voyager, on l'a fait 2 fois. On l'a fait 1 fois avant l'enregistrement de l'album. Et là, on revient de tournée aussi et on a joué en France, en Allemagne et en Suisse. Et je pense que c'est sûr que le processus de tournée, en plus de nous faire, entre guillemets, comme casser nos chansons, puis de confronter notre répertoire et notre musique à un public qui ne nous connaît pas, qui ne nous est pas gagné tout de suite, ça force aussi, ça contribue aussi beaucoup à notre connexion, parce que c'est passer beaucoup de temps ensemble, c'est pas seulement jouer ensemble, c'est vivre ensemble, voyager ensemble, vivre à des moments du quotidien. Donc je pense qu'effectivement, ça a été... un travail, ça a vraiment contribué au travail préliminaire, justement, de l'enregistrement puis de la production de l'album, je pense.
Vous allez faire un spectacle, le lancement au Vert Bouteille, qui va marquer donc la sortie officielle de l'album. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour ce spectacle de lancement-là? À quoi le public là, qui sera présent pourra s'attendre?
Mais ce lancement-là, c'est vraiment... c'est plutôt une célébration. C'est une célébration de tout ce travail qu'on a abattu pendant beaucoup de temps. Les premiers jours d'enregistrement ont eu lieu il y a presque 1 an. Donc, c'est vraiment un long parcours avant d'arriver à ce petit objet qu'on va lancer dans l'univers. Et je pense que c'est avant tout une soirée de célébration, puis aussi une manière pour nous de pouvoir offrir notre musique d'une manière extrêmement intentionnelle et presque un peu ritualisée. Donc, créer un espace qui est vraiment célébrer pour ça. Il y aura une première partie qui sera jouée par la chanteuse et poétesse Imzambique, qui écrit de la poésie. Donc, ça va être une première partie avec du « spoken word », entre guillemets, de ses propres textes, de cet artiste-là. Et ensuite, Marcia. Donc, je pense que ça va être une soirée sous le signe de la sensibilité, de la vulnérabilité et aussi de l'énergie, de la force. Et de la communauté, c'est vrai. En fait, c'est ça. C'est une soirée pour être en communauté puis pour vivre un moment privilégié ensemble.
Le spectacle de lancement, ben, ce sera demain, donc au Vert-Bouteille, on le rappelle aussi. En terminant, ben, nos auditeurs et auditrices vont pouvoir écouter Ivresse, en fait, qui est la première pièce de l'album. Pourriez-vous nous présenter un peu cette pièce-là en particulier?
Alors, c'est une pièce Ivresse, donc, qui est vraiment un symbole pour moi. C'est le renouveau, c'est après un état... quand on vit des choses difficiles, c'est quand on revit, c'est quand la vie nous sourit encore, la résilience. Et la musique, c'est vraiment ça pour moi et je pense pour nous toutes, c'est notre moteur. Voilà.
Mm-hmm. Julie Morisseau, Adèle Levaillé et Michael Daoudi de la formation Marcia, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bon spectacle de lancement demain et sinon l'album sort officiellement ce vendredi sur toutes les plateformes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci.
Suis d'autres regards.
Culture, recherche, conférence, événements. Le 12.
Ça part ici.
C'est déjà tout pour ce 12, hein, ce mardi 23 septembre. On remercie évidemment nos invités, le trio Marcia que vous venez d'entendre avec leur pièce Ivresse, qui va ouvrir leur nouvel album disponible ce vendredi. Merci beaucoup à Kev Renaud également. Donc, les ateliers d'écriture s'amorcent dès demain au Café 440 avec le professeur Patrick Nicole également. Et merci beaucoup à Ambo Flébit, donc son premier EP, premier de deux EP, là, c'est pas son premier EP, mais est déjà disponible en fait sur toutes les plateformes. Il y aura un lancement également là, au mois de novembre pour ce EP-là. Et puis, voilà, merci beaucoup. C'était tout pour ce 12 en cette heure du midi. Bon cours à ceux et celles qui y vont, quoique c'est dans 20 secondes. Donc, si vous nous écoutez, vous êtes en retard. On se retrouve demain matin, en fait, pour le 9 et demain midi également le 12. Les deux seront animés par Louis-Charles Saint-Laurent. Donc, voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve demain.